C'est là que vraiment le psychanalyste se diffère du psychologue, du psychothérapeute, si les autres n'aiment pas les voler, ils sont très paniques, parce que c'est le problème du psychanalyste, c'est le fantasme. C'est le fantasme, donc, et la représentation phallique, échappée. Et à partir de ce stade phallique, on voit les grandes options psychanalytiques se dessiner. On voit Freud, qui à partir du stade phallique, réinterprète le passé avec le stade phallique, le stade oral, le stade anal, et fait de la psychanalyse, non seulement effectivement une analyse psychique à partir de fantasmes phalliques, mais en même temps une psychanalyse psychosomatique, car il la garde ancrée dans la zone érogène, qui aura sa valeur aussi en fonction, rétrospectivement, de l'interprétation phallique châtrée. Ça c'est Freud, c'était les appartements. Et puis il y a les grandes scissions. Il y a Jung. Jung, oui, il prend le stade phallique. Il le garde, il garde le phallus, il garde la castration. Il élimine complètement la sexualité et il va développer la psychologie analytique en gardant, en introduisant toutes sortes de personnologies extrêmement compliquées. Il y a l'animus, l'anima, la persona, la magna mater, que sais-je encore, le self. Bref, une archétypie, des archétypes extrêmement complexes, et sa recherche sur le passé, sur les mythes, pour essayer de comprendre finalement la structure des personnes qui s'adressent à Jung. Un autre grand dissident bien connu, c'est Adler. Adler garde le stade phallique castration, il garde la sexualité, mais il ne prend que la sexualité masculine. Et il fait une théorie sur la protestation virile. Et ce qui est intéressant chez Adler, enfin, je vous dire des choses que vous connaissez déjà, mais c'est que Adler est en somme un précurseur du syndicalisme. Adler, avec la sexualité, avec la protestation, qu'est-ce qu'il y a ? Adler, avec la protestation virile, se met à défendre le pauvre et l'orphelin, et notamment, vous savez, avec des travaux importants, il se met à défendre les tailleurs. Pas les tailleurs de pierre, les tailleurs de tissu. Et il écrit des articles comme quoi les tailleurs de tissu vivent dans des milieux obscurs, parce que généralement ils travaillent mal éclairés à l'intérieur, soit dans des caves, soit dans les greniers. Puis c'est mal aéré. Aussi ils respirent des fibres de tissu, etc. Et il fait toutes sortes de propositions, de protestations mâles, qui sont de type syndicaliste. Il faut que les gens travaillent moins, qu'ils travaillent en meilleures conditions, qu'ils soient mieux payés, qu'ils aient des vacances, etc. C'était un peu de l'avant-garde, là, dans le sens marxiste, parce que finalement, c'était aussi à la fin du siècle dernier. Et puis, ça, c'est pour les dissidents, il y en a d'autres. Et puis, il y en a d'autres qui ne sont pas dissidents. Lacan, par exemple, Lacan. Alors, Lacan, il saisit tout à fait le phallisme et la castration. Il est 100% d'accord avec le libidinal et la sexualité, mais alors il renonce au somatique. Il fait quelque chose de psychique, et en plus il renonce à l'intra-psychique, mais il ne passe pas à l'intersubjectif, il place sa recherche entre les deux. C'est ce qui pourrait éventuellement relier dans l'intra-intersubjectif, et ce qui en même temps pourrait expliquer l'intrasubjectif. Lacan, en ceci, s'intéresse moins au sujet et à l'objet, et en quelque sorte, on pourrait dire que c'est une démarche dans un sens philosophique. Il l'a fait à partir de la linguistique de Saussure, du langage, mais il s'intéresse davantage à l'inconscient structuré comme un langage qu'à l'inconscient appartenant à un sujet et à un objet. Ce qui est intéressant, du reste, c'est que Lacan, au point de vue théorique, fait cette théorie dont je viens d'esquisser très grossièrement, mais qu'au point de vue pratique, c'était un type qui était extrêmement accroché au sujet et à l'objet. Il était passionné, et il rendait les gens passionnés aussi, et c'était des disputes, des accrochages sans cesse, il y avait de l'intersubjectif en acte. Mais la théorie se veut une théorie beaucoup plus intermédiaire. Et puis, on peut dire aussi Mélanie Klein, par exemple. Mélanie Klein, elle garde le phallus et la castration, tout à fait. Mais alors, elle renonce, enfin, elle met la sexualité de côté au profit de l'agressivité, pourquoi pas. Et puis, puisqu'on a vu, après tout, les premières choses que je vous ai dites, c'était la xénophobie, c'est dans l'ordre de l'agressivité, c'est quelque chose de tout à fait agressif dans cette première idée. Et ce qu'elle fait aussi, et qui est intéressant, c'est qu'elle écarte, tout au moins sommairement dit, c'est tout à fait manifeste, l'homme. Il s'agit du problème de la mère et de l'enfant. C'est ça le fondement de la théorie kleinienne, mais qui est une femme, et c'est la mère et l'enfant qui comptent avant tout. Bon, avec ces grands mouvements, j'arrête là ce petit passage sur les grands mouvements, et je vous dis une autre chose, c'est-à-dire que, à partir du phallus et de la castration, comme toujours, soit nous sommes surpris, soit nous recherchons les causes et les effets. Et alors là, ce qui est intéressant, c'est que nous remontons à deux sources, freudiennes l'une et l'autre, qui peuvent très bien donner deux orientations selon nos recherches individuelles, même si nous considérons tous comme freudiennes. La première, c'est que le début, ça sera l'hallucination primitive du désir, ou la satisfaction primitive du désir par l'hallucination. Et qu'est-ce que ça signifie? C'est que le besoin se satisfait par le sein et le lait, et que quand il n'y a pas de sein et pas de lait, il y a un manque. Et au point de vue du désir, il y a cette même idée de manque qui va être satisfaite hallucinatoirement. On va halluciner quelque chose qui va satisfaire le désir, alors que l'objet concret, disons, serait absent, qui aurait un manque. Et c'est pas ça qui pose un problème. Il peut très bien y avoir une satisfaction du désir hallucinatoire. Mais c'est que la satisfaction hallucinatoire du désir ne colle pas. Elle a un défaut. Elle a un défaut qui fait que toute l'analyse va être poursuivie avec l'idée de réinterpréter cette satisfaction hallucinatoire du désir, comme si à travers ça, on pensait qu'un jour on arriverait à une satisfaction hallucinatoire du désir satisfaisante, qui à ce moment-là on ferait tomber la tension et qui pourrait être l'exemple d'une satisfaction et pas l'exemple d'une répétition indéfinie d'une insatisfaction. Et puis, l'autre point, c'est non pas la satisfaction hallucinatoire du désir qui est de type psychosomatique, c'est de type objectal. Alors là, soit l'objet réel, soit l'objet représentatif, c'est la représentation de la scène de vie. De nouveau, on se trouve au même plan, on revient en arrière, enfin on arrive à la scène primitive, et on s'aperçoit que cette représentation de la scène primitive, on va indéfiniment la retravailler. Dans quel espoir? Dans l'espoir d'avoir de nouveau une représentation qui n'ait pas cette défectuosité d'être répétitivement excitante, mais qui puisse nous satisfaire. Et, à propos de cette scène primitive, qu'est-ce qu'on cherche? On cherche d'où nous sommes nés, qui sont nos parents. Et là, il y a quelque chose qui, psychanalytiquement, moi, m'intrigue et m'intéresse. C'est que, généralement, on croit savoir qui est notre mère. Il se trouve qu'on ne sait pas qui est notre mère. On a tous une amnésie infantile, on n'a absolument aucun souvenir du fait qu'on est né de cette femme-là qui dit qu'elle est notre mère et dont nous croyons qu'elle est notre mère. On peut avoir un tas de preuves indirectes. Alors, quelqu'un qui a filmé la naissance de cet individu qui est né le jour qui correspond à l'heure qui correspond à la naissance que j'ai sur mon passeport. On peut avoir des photos d'un bébé qui est ressemblant à au bébé qu'on pense qu'on aurait été, etc. Il peut y avoir des preuves indirectes, mais aucune n'est une preuve directe qui amène la conviction. Mais ces preuves indirectes sont tellement nombreuses qu'on croit volontiers que notre mère est notre mère. Et qu'on ne se pose pas tellement de problèmes, on a une opinion. Cette femme, c'est bien ma mère, J'en suis intimement convaincu. Il n'y a pas de problème majeur. Pour le père, c'est complètement différent. Le père, on n'arrive pas à avoir des preuves indirectes. Il n'y a rien à faire. On a beau nous dire que notre conception a eu lieu à tel jour et telle heure, on n'arrive pas à y croire. Et puis d'abord, on ne sait pas si le père est bien sûr de son affaire. On ne sait pas ce que peut nous cacher la mère. Bref, il y a une quantité d'inconnus qui font que cette croyance tranquille qu'on peut avoir avec la mère, on ne peut pas l'avoir avec le père. Alors qu'est-ce qui se passe? Eh bien, devant ce doute insupportable, on va croire que c'est le père, mais on va le croire de manière dogmatique, de manière... Ça va être... On va tomber de la croyance-opinion dans la croyance-foi. Oui, c'est mon père. Et puis, l'administration va le prouver. C'est bien lui, le père, car vous avez son nom. Il n'y a pas de discussion possible. On n'a pas besoin d'avoir le nom de la mère, ça va. Tout le monde y croit volontiers. Mais le père, il faut que ce soit noté et il faut que ce soit cru. Et alors c'est ça qui est très curieux, c'est la violence de la croyance paternelle. Alors qu'est-ce qu'on trouve à partir de là? Eh bien, on trouve que les religions polythéistes sont des religions faites de dieux et de déesses, qui ne sont pas des religions violentes, qui sont des religions qui, excusez-moi de mes conclusions sommaires, mais enfin c'est pour mes idées, qui sont des religions qui acceptent facilement d'autres religions, tolérantes, qui peuvent cohabiter avec d'autres religions. Tandis que les religions monothéistes, le dieu monothéiste est masculin. Et les trois grandes religions monothéistes, le dieu est homme, et au nom de ce dieu, on va faire des massacres, tuer des milliards de gens pendant des milliards d'années, on ne cesse pas d'avoir des guerres de religion grâce au dieu monothéiste et à cette croyance aussi que moi je vois issue de l'obligation de croire de manière intolérante à qui est notre père. Alors, à ce propos, je voudrais faire une petite diversion kleinienne, très rapide. Ce qui est intéressant, c'est que dans le kleinisme, je dis kleinisme et pas des kleiniens, le mot est là, je crois, plus approprié. Il y a ce côté d'intolérance. Ce que je veux dire dans le kleinisme n'est pas kleinien qui veut. Il doit faire une conversion, il faut croire, on ne peut pas se déclarer kleinien. On ne peut pas se déclarer kleinien comme on se déclare freudien. Et alors vous me direz, mais qu'est-ce que ça a à voir avec ce que je viens de vous raconter? D'abord, on met les kleins sur une femme, et puis le kleinisme, il s'agit d'une mère. Alors, je pense que là, c'est intéressant parce que, justement, là, on retombe sur l'interprétation psychanalytique. Freud, c'est le premier analyste. Mais ce n'est pas le père de la psychanalyse. C'est le père et c'est la mère. C'est le premier analyste. C'est l'origine, c'est la règle fondamentale. C'est la scène primitive de la psychanalyse. C'est la naissance de la psychanalyse. Et Freud étant père et mère, je pense, tout au moins selon moi, qui suis freudien, c'est que je ne sens pas du tout cette intolérance. Je suis d'accord que les psychanalystes du moins soient freudiens, je suis d'accord que les kleiniens soient freudiens, je suis d'accord que les lacaniens soient freudiens. Je ne vais pas en faire une histoire, je ne vais pas me battre pour ça. Et je pense que Freud étant père et mère, c'est de l'ordre du polythéisme. C'est la même idée. Il y a cette souplesse de l'opinion qui tient à la mère. Alors on me dirait, mais alors, qu'est-ce qui se passe avec Mélanie Klein? Alors je pense qu'avec Mélanie Klein, eh bien, que ce qu'elle a fait avec sa théorie, que je conteste pas, je trouve que c'est une très bonne théorie, mais qui est intéressante à ce niveau-là, c'est qu'en faisant qu'une théorie de mère et d'enfant, elle a éliminé le père. Et ce qui se passe psychanalytiquement, c'est le retour du père. C'est le retour du père exclu sous forme de croyance, de foi et d'intolérance. Autrement dit, la mère prend ce qu'on a enlevé au père et devient, avec Mélanie Klein, cette caractéristique, non pas des kleiniens, mais du kleinisme, qu'on n'est pas kleinien comme ça, qu'il faut le devenir et qu'il faut le gagner et qu'il y a cette intolérance qui correspond aux religions monothéistes. Alors ça, c'est une digression. Et pour terminer, je voudrais vous dire encore deux mots quand même de ce que je trouve fondamental dans mon livre, c'est le problème de l'intersubjectivité. Alors, ça, c'est pris sur un tout autre plan que sur le plan que je vous ai dit. Qu'est-ce que c'est que la psychanalyse ? La psychanalyse, c'est l'analyse du psychisme par rapport à la psychologie qui est la récupération du psychisme par la logique et les mathématiques, par exemple, par les sciences. Et l'analyse du psychisme, qu'est-ce que c'est que le psychisme ? Eh bien, le psychisme, je vous l'ai déjà dit, mais je répète la définition, le psychisme, c'est le psychique, c'est l'objet de la représentation dont l'esprit est le sujet. Donc, le T, c'est l'objet de la représentation dont je suis le sujet. Je me représente une tasse de thé. Mais en faisant cela, qu'est-ce que je fais ? Je sujet me représente à qui ? À moi objet. Je suis je sujet objet. Je me représente une tasse de thé qui est un objet. Et cet objet, c'est quoi ? C'est le sujet de la représentation. Autrement dit, objet sujet. Alors on a deux couples, sujet-objet, objet-sujet, qui sont les mêmes, mais qui ne sont pas identiques. Et ce que cela confirme, c'est qu'effectivement, la tasse de thé que je me représente, c'est tout aussi bien moi que moi le sujet. Elle m'appartient intimement, donc je ne voulais pas envoyer par un message informatique. Alors, la situation est compliquée, puisqu'on a un sujet-objet, un objet-sujet, puis au milieu, on a une représentation. Donc tout ça est psychique, l'objet-sujet, c'est psychique, la représentation, c'est psychique, le sujet-objet, c'est aussi psychique. Alors, la psychanalyse, c'est pas simple. Maintenant, si on prend un psychanalyste et un psychanalysé, eh bien, on a une relation interpersonnelle entre deux personnages, un psychanalyste en chair et en os, et puis un psychanalysé en chair et en os. Et le psychanalyste, dans son travail de psychanalyste, va se représenter le psychanalysé. Donc, le psychanalyste qui se représente à qui ? À lui, psychanalysant. C'est le psychanalyste psychanalysant, celui qui se représente. Il se représente à psychanalysé, psychanalysant. Et, dans l'expression psychanalytique, on a donc deux couples, psychanalyste psychanalysant, psychanalysé psychanalysant. Et ces deux couples, c'est d'une part la relation interpersonnelle, le psychanalyste et le psychanalysé, et d'autre part la relation intersubjective, deux psychanalysants. Je dis ça pour deux raisons. La première, c'est que ça me paraît très important parce qu'en 1950, peut-être 60, peut-être du 68 tard précoce, on a découvert que les analystes américains disaient analysant. C'était une découverte phénoménale, plus personne ne pouvait dire analyser, c'était une insulte, on était en train de transformer l'analyser en sujet, bon, ou en esclave. Et alors, il fallait échapper à ça, alors on disait analysant. On a cru faire un progrès formidable, mais je crois qu'on ne s'est pas aperçu qu'on ne modifie pas les mots comme ça, et que justement, ce qui était intéressant, c'est qu'on différenciait l'analyser entre analyser et analysant. Et alors, on a effectivement ces deux couples, psychanalyste psychanalysé, et deux couples psychanalysants. Et là où c'est important pour ma métapsychanalyse, c'est qu'on peut parfaitement les différencier, parce que le couple intersubjectif des psychanalysants, c'est le couple qui est vécu dans l'analyse, le couple de transfert. C'est-à-dire, si l'analysé est un analysant, c'est-à-dire se prend pour un enfant, il ne peut se prendre pour un enfant que dans la mesure où l'analyste se prend pour quelqu'un d'autre. Il peut se prendre pour un enfant, pour un parent, pour la mère, etc. Mais l'analyste ne peut pas voir l'analysé enfant sans lui-même être quelque chose de correspondant à cet enfant. Donc, intersubjectivement, il est aussi analysant. Et ce couple d'analysants, comment va-t-il sortir d'affaire ? C'est au premier qui va interpréter. C'est le premier qui va dire « Mais, voilà, je découvre que vous et que moi, nous sommes, etc. » qui va pouvoir donner quelque chose d'une nouvelle histoire que lui ne savait pas. Il savait théoriquement qu'il allait, on peut dire, injecter le complexe d'Édipe dans la mémoire. la sauce, si on peut dire, mais il ne savait pas ce qu'il allait devenir, et il ne savait pas non plus ce que le petit Galizet allait devenir, et il interprète. Et alors, là, on retrouve la science historique, c'est l'interprétation de quelque chose d'inconscient sous l'effet d'une excitation libidinale qui est venue exciter le psychanalyste. Et, à l'occasion, c'est le psychanalysé qui peut aussi devenir psychanalyste, comme il arrive souvent qu'il le devienne plus tard, et qui peut le premier trouver la clé et interpréter à l'occasion, alors qu'en principe, puisque c'est le psychanalyste qui mène la marque, c'est lui qui commence par interpréter. Voilà, je vous remercie.
Nous allons prendre du thé.
Beaucoup. Je m'excuse aussi, c'est tout à fait annexe. Je ne pourrai pas rester après la discussion. Je dois partir rapidement et puis je vous rejoindrai tout à l'heure. Alors, je vous ai écouté évidemment avec énormément de plaisir et j'ai retrouvé l'ambiance de votre séminaire. À l'époque, où j'étais un petit peu bébé psychanalyste, j'étais extrêmement impressionnée parce que c'était un séminaire vraiment en garçon. Et alors, c'est fou ce que ces garçons parlaient bien. Et j'ai retrouvé ça aujourd'hui, parce que Ignacio a parlé aussi bien qu'il le faisait à l'époque, et Olivier de manière merveilleuse. Alors, j'étais quand même un peu moins intimidée il y a quelques années, et j'ai pensé que c'était pas seulement le séminaire des garçons, mais qu'il y avait un côté quand même vilain garnement. Et il y a un côté vilain garnement parce que vous passez très allègrement des positions les plus fondamentales à la psychanalyse et de la psychanalyse. Et je pense que vous nous dites et vous nous donnez des arguments qui sont et qui seront sans doute déterminants quand vous définissez dans quel cadre le psychanalyste peut penser les concepts qui sont les siens. Puis alors, il y a d'autres moments où vous changez complètement de mode de pensée et où vous prenez ce que vous aimez bien chez Olivier, être un peu provocateur, et où vous changez complètement de mode de pensée. Et là, moi, je ne vous suis pas tout à fait. En particulier, je le dis, je suis encore un peu intimidée de vous le dire, mais enfin, vous nous apprenez qu'il y a aussi un courage à dire les choses, qu'il n'y a pas seulement un plaisir à les dire, mais que il faut qu'elle soit dite pour qu'il y ait du plaisir qui s'en dégage, et que je ne vous suis pas sur ce que vous dites concernant, par exemple, les différentes phases de l'enfant, ou comment vous les décrivez, parce que là, vous n'êtes plus dans l'analyse. Et au fond, vous nous faites une description, à ce moment-là, qui rejoint un peu celle que vous critiquez même, puisque vous nous décrivez un enfant, mais qui n'est plus quelqu'un qui vous parle en analyse. Alors, ça, c'était une première chose. J'ajouterais une seconde chose, alors qui est une forme de question. Sur la question de la métapsychologie et de la métapsychanalyse. Moi, j'avais l'impression que votre idée sur la métapsychologie, dans l'œuvre de Freud, s'applique mieux à la psychopathologie de la vie quotidienne qu'à la métapsychologie. Je m'explique. Dans la psychopathologie de la vie quotidienne, Freud le dit, je me prends moi-même comme objet d'observation. C'est au premier paragraphe de l'oubli de nom propre. Donc, il se prend lui-même comme objet d'observation dans une tentative tout à fait objectivante. Ce qu'il fait dans la psychopathologie de la vie quotidienne, c'est vraiment une description objective de ce qui a dû s'être passé. Il a oublié le nom pour telle ou telle raison. Alors que, dans tout ce qui concerne la métapsychologie, et le livre qui s'intitule « Métapsychologie » en est, je trouve, l'exemple très flagrant, il déborde, il se trouve pris dans, justement, quelque chose qui le déborde. C'est-à-dire que sa position, il voudrait faire un livre qui fait le point sur toute sa théorie du moment, et ça déborde sans arrêt. Pour juste te donner un exemple de « Les mélancolies », c'est déjà toute la deuxième topique, il est déjà complètement pris dans le mouvement dans lequel il est embarqué. Donc, il me semble que ce que vous diriez de la métapsychologie, moi je l'appliquerais plus précisément à ce que Freud appelle la psychopathologie, et qui est un livre un tout petit peu ennuyeux pour nous à cause de cet aspect objectivant, et dont je suppose que les rééditions s'arrêtent en 1924, parce que vraiment à ce moment-là, la complexité du fonctionnement du moi, deuxième topique, n'est absolument plus compatible avec cette vision objectivante des choses. Et alors, ce qui ferait cette différence fondamentale, et là, alors c'est de nouveau une question que je vous pose sur l'analyste, et qui est l'analyste, ce serait au fond celui, si je reprends vos idées sur l'intersubjectivité, qui se laisse transformer par la déception infligée par la clinique. C'est-à-dire que la clinique étant en psychanalyse uniquement le langage, et ce qui est dit, et rien d'autre, et alors ce serait ce mouvement que Freud décrit dans l'hystérie, où au fond il est déçu par les résultats amenés par ce qu'il pensait être une bonne idée, qui était l'idée du traumatisme, son idée d'hystérie, mais c'est bien parce qu'il lui est dit que cette déception même le transforme. Et il y aurait là alors une différence tout à fait capitale avec ce que vous appelez la psychothérapie ou l'attitude du psychothérapeute. Mais j'ai eu l'impression qu'il y a quelque chose qui a trait chez Freud à que la déception devient l'objet même de la transformation. C'est donc pas une déception au sens déprimant du terme, mais comme possibilité de se laisser transformer par. Et qu'on voit très très bien se faire dans justement la question de l'hystérie.
Mais c'est très difficile parce que vous m'avez amené un tas d'idées et je ne crois pas que je ne puisse répondre tout ça. Je vous remercie beaucoup de cette élaboration. Je ne vois pas très quel point choisir, si ce n'est. En somme, la transformation de la déception en projet. Parce que la déception, je la retrouve peut-être à travers l'idée dont j'ai parlé de xénophobie, une espèce de. Alors là, je vois une angoisse au début. Et que cette angoisse, je mettrais dans la vie quotidienne. Et que ce qui me chagrine avec la métapsychologie, c'est que l'intentionnalité et le projet ne sont pas des projets réjouissants du tout. Alors on transforme la déception en attente de mort, c'est ça qui m'afflige. Alors tout ce que vous avez soulevé à propos de l'observateur de la vie quotidienne, je trouve tout à fait intéressant ce que vous dites. Et il faut que j'y pense, que j'y réfléchisse. En tout cas, merci beaucoup.
Mauricio Dutler.
Cher Olivier, voilà déjà quelques années que je vous ai demandé dans quelle optique nous pourrions discuter. Et vous m'avez répondu, pourquoi pas, d'un point de vue heuristique. Parce que vous parlez. Il m'a fallu du temps pour mieux comprendre ce que vous avez voulu me dire. Eh bien, j'ai lu votre livre dans un esprit heuristique. Je m'explique. Heuristique comme adjectif qui sert à la découverte. Heuristique, hypothèse, on ne cherche pas à savoir si elle est vraie ou fausse, mais qu'on adopte seulement à titre provisoire comme idée directrice de la recherche de fait. Heuristique pédagogique, méthode consistant à faire découvrir à l'élève ce qu'on veut lui enseigner. Avec votre livre, vous parvenez à confirmer ces trois postulats de l'heuristique. Vous partagez vos découvertes avec nous, vous nous proposez des idées directrices et vous cherchez à nous faire découvrir ce que vous voulez nous enseigner. J'ai lu votre livre avec intérêt et je me suis retrouvé dans vos interrogations, vos inquiétudes, comme je m'imagine que l'on fait beaucoup de collègues. Avec beaucoup de nuances, vous nous proposez une nouvelle instance, celle de la métapsychanalyse, que si j'ai bien compris, devait remplacer la métapsychologie freudienne sans y renoncer, et qu'elle tiendrait comme axe la intersubjectivité. Pour moi, toute la démarche psychanalytique passe par l'intersubjectivité et à partir de là, la métapsychanalyse que vous nous proposez ne serait que la mise à l'acte de la intersubjectivité dans la relation analytique de la métapsychologie freudienne nuancée par les différentes écoles auxquelles nous appartenons. Maintenant, les côtés controverses, aussi avec un esprit heuristique. Je voudrais reprendre une petite phrase de votre vignette clinique, tout en sachant, et d'accord avec vous, de l'impossibilité qui est cela de se situer dans cet acte unique qui est celui d'une séance d'analyse. Vous dites, je suis le père, l'argent la mère, et lui le fils. Je vous propose la formule, moi je suis le mauvais objet, le père, qui l'a frustré. En épayant la séance manquée, cet argent deviendra l'expression symbolique de son agressivité refoulée, avec laquelle il veut me punir, puisque moi, je lui volais sa séance. Pour terminer, je me réjouis vivement de votre défense de l'expérience analytique comme le seul moyen pour parvenir à la transmission de cet acte unique, c'est la psychanalyse. Merci encore.
Merci beaucoup Maurizio. Ce que je voulais juste. Enfin, je crois que chacun. Je crois que c'est ce que j'ai incité dans ce livre, c'est que chacun interprète à sa manière, vraiment. Mais ce que je voulais dire, c'est que l'intersubjectivité, pour moi, n'a de sens que par rapport à la relation interpersonnelle. C'est ça qui est important, c'est finalement le jeu entre les deux, qu'on passe son temps à croire qu'on est psychanalyste alors qu'on n'est pas, ou à croire qu'on est un objet de transfert alors qu'on est psychanalyste. Et cette espèce de jeu continuel qui est totalement déroutant, je dirais, en psychanalyse, si moi je me réfère qu'à la métapsychologie, parce que je vois ça comme un jeu indéfini, je n'ai pas de moyen de m'en sortir, sinon d'attendre que ça soit jusqu'à ce qu'on en crève, finalement. Alors que la jouissance du dit serait ces moments où on découvre le sens de l'intersubjectivité, mais en la découvrant, évidemment, on en sort. Et on s'aperçoit qu'on a dit quelque chose qui ne reste plus que comme ce qu'on a dit de l'intersubjectivité, puisqu'on devient interpersonnel en la disant, on devient analyste, on devient analysé. Et que ce plaisir-là, moi, me fait tout à fait penser, comme je l'ai dit, à l'après-coup de la création de l'histoire, et donc à une sorte de mise en fonction de quelque chose d'heuristique et d'hédonique aussi, d'un plaisir qu'on peut apprendre à retrouver en dehors de la psychanalyse. Quoique, je ne sais pas si c'est la psychanalyse soit un enseignement, mais plus une expérience vécue. En tout cas, merci beaucoup.
Le docteur Jacques Descombes. Donc, faut parler plus fort parce qu'on ne peut pas.
Oui, alors je parlerai plus fort. Après toutes ces interventions, je me sens un petit peu comme Florent Cartier, à savoir qu'il faut que je prenne mon courage. Alors, je prends mon courage, je me suis envoyé pour vous poser une question par rapport à la différence que j'ai trouvée dans vos deux ouvrages, à savoir l'acte de passage et. Concernant la psychanalyse, donc. Parce que dans l'acte de passage, vous dites un peu contextuellement, je n'ai pas trouvé exactement la référence, que pour vous, la psychanalyse d'enfant doit se dérouler à peu près de la même manière que la psychanalyse d'adulte. Puis, dans votre défense de toucher, vous avez changé d'opinion totalement. Savoir que, en tout cas, pour vous, la psychanalyse que vous pratiquez ne correspond pas à ce qui vous en est dit de la psychanalyse d'enfant. Alors, ma question était de savoir ce qui vous poussait à cette différence, à avoir changé, ou en tout cas à avoir une opinion différente, parce que je pense qu'elle doit se payer sur un certain nombre de choses, d'autant que vous argumentez à propos tant d'une ce que vous entendez de la psychanalyse kantienne, et ce que j'ai cru comprendre de la psychanalyse anafreudienne, je dirais, comme s'il n'y avait pas quelque chose de l'ordre d'une autre démarche qui consisterait aussi à s'appuyer sur cette intersubjectivité, ou en tout cas l'interrelation dont vous parlez, et qui pourrait prendre d'autres formes que simplement soit une explication à l'enfant de ce qu'est le fonctionnement psychique, soit à lui parler comme d'une théorisation avec le langage kleinien que l'on peut connaître, enfin j'entends que tout a été raconté. Alors est-ce que vous voulez que je vous donne un exemple qui pourrait faire l'objet d'une critique, ou est-ce que cela vous suffit pour, parce que j'ai une courte vignette à vous proposer, si vous désirez, juste un enfant que je suis depuis quelques mois, et qui vient et me dessine un vaisseau spatial avec une navette de secours. Puis, dans un second temps, il fait cette navette de secours, où il représente un nombre considérable de petites navettes de secours à l'intérieur de cette navette de secours. Sur quoi je lui fais simplement l'intervention, qu'il pourrait me poser la question de savoir combien de mamans peut avoir de bébés, dans la mesure où ça fait référence à quelque chose d'une discussion que j'avais déjà eue avec lui. Sur quoi il représente un troisième vaisseau dans lequel, effectivement, il représente plusieurs chambres, dont une chambre avec deux lits, dont un des habitants a un turban, et deux chambres avec un lit et une caméra d'observation pour la chambre de deux lits. Donc, il y a quelque chose là qui s'est produit dans le processus de pensée que j'ai soutenu et qui me semble être différent de ce que vous avez dit dans les interventions qu'on fait aux enfants. C'était simplement pour cela que je me posais la question, pour savoir s'il n'y a pas lieu chez les enfants aussi de considérer qu'un processus de pensée peut être soutenu et qu'effectivement, les modalités d'application technique sont à faire et qui ne peuvent pas se faire dans toutes les psychanalyses d'enfants, comme d'ailleurs dans toutes les psychanalyses d'adultes, il n'y a pas forcément un processus psychanalytique qui déclenche.
Merci beaucoup. Pour le changement d'opinion, ça ne me gêne pas d'avoir changé d'opinion, mais je crois que je n'ai pas vraiment changé d'opinion, parce que je pense que soit la psychanalyse d'enfant, pour moi, c'est comme la psychanalyse d'adulte, par conséquent, il n'y a pas de psychanalyse d'enfant, ou soit c'est une psychanalyse d'enfant spécifique, mais pas celle d'adulte. Alors je pense qu'il y a les deux points de vue qui correspondent. Ça ne m'a pas paru quelque chose de contradictoire dans ces deux positions différentes. Maintenant, en somme, dans l'exemple que je crois que la psychanalyse d'enfant, pour moi, si c'est vraiment un enfant, ça serait la psychanalyse d'un enfant qui daterait d'avant l'amnésie infantile. C'est ça qui me paraît le plus important. Autrement dit, avant l'amnésie infantile, c'est-à-dire avant qu'il ait pu oublier son enfance et qu'il ait pu, selon nous, à ce moment-là, la réinterpréter avec, par exemple, notre référence analytique, fantasmatique du phallus et de la castration. Alors, j'y vois quelque chose de totalement différent de ce que je fais. Maintenant, juste deux mots à travers ce que vous avez dit de votre exemple où vous interprétez comme maman et bébé. Moi, je trouve que c'est pas simple du tout. Je trouve que ça donne un abîme de perplexité. Pourquoi ça serait simplement l'équivalent de maman et bébé ? Ce que je trouve bien, c'est que ça a été efficace. Il y a quelque chose d'efficace. Mais ce que j'aimerais comprendre, c'est comment ça se passe. Et je dois dire que ça me paraît aussi complexe que la psychanalyse d'adulte, qui pourrait, on pourrait interpréter de la même façon à ce moment-là. Mais alors il faudrait à ce moment-là que l'enfant puisse en effet discuter et vous renvoyer quelque chose de votre interprétation en pouvant être à même de trouver chez vous, de s'étonner chez vous de pourquoi vous avez dit maman et bébé et que vous deveniez un sujet de perplexité chez lui. Alors je ne sais pas si vous le devenez chez lui ou si vous restez dans cette objectivité qui fait que vous êtes heureux de voir le changement, mais que ce changement ne se traduit pas chez lui par une nouvelle perplexité encourageante, mais par une sorte de satisfaction, de baisse de tension et de solution des problèmes. C'est pas... Enfin, je vous remercie de la...
J'ai
Je suis dans une grande perplexité parce qu'il faut que nous terminions vers 5h30. J'ai des interventions. C'est Olivier qui souhaitait. Alors, il y a Nikos qui devrait parler, Graciela, Kenal, Kostoulas, Françoise Tény, Daniel Guinodo et deux tout petits mots, si j'ai bien compris, d'Anne d'Alicia, très très rapide.
Moi, c'est une intervention concrète par rapport à la psychanalyse de l'enfant, mais aussi qui est hier, qui vient de lire.
Non, mais si tu veux, moi, je peux vous laisser discuter et partir avant.
Merci Olivier pour tout ce que tu as dit tout à l'heure pour ton livre. Moi je préparais un texte, mais comme tu as dit que l'essence de la psychanalyse et la castration, je vais me retoucher à propos du temps qui nous manque. Je dirais peu de choses, tout en me réservant le temps pour nous discuter avec toi une autre fois. Bon, je prends ce que tu as dit aujourd'hui et je cible mes propos sur la tasse du thé. Tu sais bien que la polysémie, c'est ma tasse du thé.
De thé.
On parle de la polysémie. Alors, en ce sens, tu n'as pas prononcé le terme polysémie directement, mais je le trouvais tout au long de ton livre. Et par contre, tu as parlé de la tolérance du polythéisme par rapport à la rigidité du monothéisme. Et dans cette tolérance polythéique, je mets le côté polysémique suivant mes propres opinions. Tu as parlé du phallus comme une l'invention principale de la psychanalyse. Ce que m'a fait penser à l'axe phallique du signifiant dont je parlais dans le passé. Et à propos du signifiant, je ne veux pas te dire que nous sommes tous les deux structuralistes, mais nous aimons la structure. Structuraliste est un terme un peu large. Et en aimant la structure, on a affaire avec un problème avec l'essence. Je te rappelle qu'en 1967, à Paris, dans ton rapport du discours au symptôme, tu as dit quelque chose qui a fait scandale à l'époque, que le symptôme n'a pas de sens. Si on lui donne un sens, il perd son sens. Et tu as ajouté en 1979, dans le temps de la psychanalyse, il perd son sens du symptôme. Alors en ciblant toujours sur la polysémie, je reste le contexte que j'ai tissé pour placer ce que je voulais dire par rapport à le message polysémique, et je dis que tu dis justement la pluie, c'est la pluie, un substantif, un phénomène de la nature, une histoire communautaire. Mais la pluie, c'est aussi la brèche. La brèche, tu l'as très très bien située en mettant les choses dans cet hiatus, comme tu as dit, entre la science ou le cerveau et la pensée, le fantasme. Et cette brèche, comment Freud a essayé de la combler par la métapsychologie. Bon, la pluie crée cette relation tout en étant sa créature, je te cite. Alors, je mets l'hypothèse justement que ce récit, il pleut, ou la tasse de thé, qui couvre quand même presque le quart de page de ton livre, l'histoire de la pluie, condense ce que j'appelle la protestation par virisme polysémique contre le risque monosémique que tu vois dans l'universalisme de la métapsychologie. Là, tu peux te dire, je ne suis pas tout à fait d'accord. Par ce biais, qui jouit non seulement avec Lacan, mais aussi avec Gertrude de Freud, le sixième chapitre de l'interprétation de rêve en tête. En ce sens, ce plat, je ne le pas, il dit que le fonctionnement universel de la métapsychologie étouffe la jouissance du dit qu'offre la rencontre, c'est moi qui dis, polysémique, je dirais polymorphe, entre les deux êtres. J'assume ces glissements phénoménologiques parlant de la rencontre entre les deux êtres. Ta crainte, nous l'avons déjà vu, serait l'isomorphisme du sujet individu, inséquable, au profit d'une hypothèque corporelle, économique, voire biologique, tu dis. Pour éviter, et je termine, et là, je te vois ayant la difficulté de suivre, pour éviter cette hypothèque, il faut filtrer, voire épurer, je suis épurer le désir pulsionnel le plus psychiquement possible.
Oui.
Je me suis chatoué.
Non, mais je trouve intéressant comme tu finis, parce qu'effectivement, mon vœu serait que la psychanalyse concerne le psychisme et l'interpsychisme, et pas la psychosomatique. Tu vois, je le dis à toi, je sais bien que je touche un point qui nous permet de discuter, mais que les deux choses qui, moi, me chicanent, c'est que la métapsychologie est quand même ancrée dans le corps, et puis ce que tu as dit de la monosémie, c'est-à-dire que la métapsychologie, c'est la théorie de l'appareil psychique et du fonctionnement mental. Alors, c'est comme une sorte de monosémie, c'est aussi de la théologie qui n'est pas polythéiste, qui est monothéiste, c'est-à-dire que c'est comme si on ne pouvait pas critiquer, on ne pouvait pas remettre en question ce que Freud a dit, alors qu'il l'a quand même dit il y a 50 ans. Alors moi, tant que je n'ai pas compris, je ne peux pas l'accepter, et donc je le remets en question. Ça m'est égal de remettre en question Freud, ça n'empêche que c'est le point de départ, mais que je ne peux pas y voir là quelque chose qu'on doit apprendre, enseigner et comprendre, parce que je ne le comprends pas. Et je suis obligé de le discuter, ce qu'on fait du reste avec toi tout le temps, c'est de discuter, mais pour le moment, je n'ai rien à proposer d'autre que des ébauches qui seraient, par exemple, étudiées de métapsychanalyse, ne fût-ce que pour la détacher de la psychologie du logos qui vient infecter le psychisme. Merci.
André Nal.
Mon cher Olivier, je vais te parler. Tout d'abord, merci. Comme tu l'as prédit, tu as mis toujours à nous surprendre. Et en effet, il y a une certaine indétermination qui est mise en l'air. Et je m'en suis beaucoup réjoui. Je voudrais. Tu me surprends, pourtant nous avons des pensées, je pense, relativement différentes. Et j'aimerais te donner un peu d'écho très brièvement, puisque je sais que la réception va être meilleure que ton intervention. Je vais mettre très bref pour dire juste l'idée qui m'a fait. Je pense réellement que ce que tu proposes, cette transition depuis la métapsychologie à la métapsychanalyse, qu'elle est importante. Et je dirais, de mon point de vue, pourquoi ? Parce qu'il y a quand même beaucoup de remarques que nous entendons, par exemple, sur notre travail autour de nous. Je cite, par exemple, quand on dit que l'une des fonctions les plus importantes de l'analyste est d'aider de reconstituer au sujet son histoire, qu'on ne peut modéliser dans aucun des modèles de métapsychologie. Donc je pense qu'il y a beaucoup de choses avec lesquelles nous travaillons que nous n'arrivons pas à exprimer réellement métapsychologiquement. Alors tu as cherché dans cette métapsychanalyse de situer l'humain et situer le psychanalytique spécifique. Et alors j'ai une idée là-dessus que je voudrais te soumettre. Je suis curieux si tu voudrais bien faire un commentaire. C'est l'idée, et tu as travaillé avec l'idée, qu'est-ce qu'il est nouveau dans l'informatique et dans les sciences de l'informatique. Et moi, je pense qu'une chose que l'informatique nous a enseignée, même si la critique littéraire, etc., avait pu déjà enseigner auparavant, mais qui a été mis en avant, c'est que quand nous recevons un message, nous interprétons toujours. Si je reçois sur mon truc, là, ce petit appareil-là, un message email, je reçois un message en arabe ou en chinois, je n'ai pas de code, je ne peux pas comprendre. Quand tu nous as donné beaucoup d'exemples avec le petit déjeuner, que maintenant on sait que c'est le thé, je sais pas. Tu as donné beaucoup d'exemples pour que nous puissions savoir comment, du contexte, de la sensibilité d'un individu, tant de facteurs que nous devons réellement prendre en considération pour réellement comprendre le message, c'est-à-dire que nous interprétons dans notre communication. Et c'est là où j'ai l'impression qu'il y a quand même une grande différence entre l'interpersonnel et l'intersubjet. Parce que l'interpersonnel, c'est un échange de messages verbaux, verbaux et non-verbaux. Par contre, dans l'intersubjectif, on essaye de comprendre de plus en plus approfondie la compréhension de ce que l'autre veut dire. Dans ma compréhension, l'intersubjectif, c'est vraiment deux sujets qui s'interprètent mutuellement et qui essayent d'interpréter aussi, qui essayent d'épuiser cette interprétation inépuisable à la vie qui se fait pendant les années, par exemple, dans la psychanalyse. Alors, un des modèles que j'aimerais vous soumettre, si ça peut clair, c'est que l'intersubjectif est finalement deux subjectivités s'interprétant toujours. Mais là, dans l'interprétation psychanalytique, pour comprendre beaucoup de choses, je pense que c'est juste une situation limite, presque une caricature, que je pense que nous faisons sans nous avoir à percevoir constamment.
Merci beaucoup. Écoute, moi, à propos de l'informatique, ce que je voulais dire, c'est que la différence entre l'informatique et nous, à part tous les points d'intérêt que j'ai soulevés, c'est que l'informaticien qui fait son logiciel sait d'avance donc ce qu'il a l'intention d'obtenir. Et nous ne savons pas. Mais avec cette différence, c'est que nous allons découvrir quelque chose, mais que le psychanalyste introduit quand même un élément logiciel dans l'affaire, il introduit complexité. C'est ça qui me trouble, c'est qu'on ne peut pas faire de l'intersubjectivité et de la recherche de savoir mais qu'est-ce qui nous sépare et de indéfiniment se disputer pour trouver ce qui ne nous sépare pas. On peut imaginer des parents et des enfants qui vont se disputer toute leur vie, ils ont beau discuter, ça ne marche pas. Nous introduisons quelque chose. On va dire, on va essayer de se comprendre, mais il s'agit qu'on accepte les deux, une certaine règle, que je dirais très grossièrement, le complexisme. On accepte ça comme point de discussion, de référence, qui est complètement mythique, qui est le phallus, en résumé, c'est ça, un signifiant qui est totalement extérieur, qui est entre les deux sujets, mais qui va toujours faire que l'intersubjectivité ne peut pas se passer sans qu'on soit des sujets incarnés, c'est-à-dire des sujets qui sont interpersonnels. Et c'est ce jeu entre les deux qui me paraît intéressant et en même temps qui fait qu'on est jamais au bout. On doit toujours continuer et qu'on peut prendre qu'il faut trouver du plaisir à continuer comme dans l'existence avec ceci en plus que cette introduction des livres dans la situation psychanalytique permet de modifier l'histoire différemment de l'histoire qui se modifie par deux intersubjectivités qui n'ont pas un projet à l'arrière-plan, qui est quand même le projet du psychanalyste d'introduire cette référence-là dans le champ intersubjectif. Merci de tes propos, je réfléchirai.
Alors,
c'est pas...